Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaire, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Voilà, merci d'être à l'écoute du magazine Okapi Service, j'allais dire centenaire, voilà, de l'hôpital général de Kinshasa et non de l'université de Kinshasa, comme annoncé tout à l'heure dans les titres. Alors à présent, nous allons parler de l'intoxication alimentaire. Vous savez, l'intoxication alimentaire est une infection très courante. Elle n'est habituellement pas d'une grande gravité, mais certaines intoxications peuvent avoir des conséquences sérieuses et même mortelles pour quelques personnes. Alors que faire en cas d'intoxication alimentaire et comment prévenir cela, surtout en cette période des festivités, des fins d'année où on mange un peu de tout. Professeur Ndelodi Panzou, vous êtes toxicologue, encore une fois bonjour.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'on entend par intoxication alimentaire?
Eh bien, on parle d'intoxication alimentaire lorsque l'aliment devient le véhicule de poison de manière accidentelle. Je voudrais dire ceci, normalement l'aliment c'est le véhicule des nutriments qui sont là pour nourrir l'organisme. Mais lorsque, au lieu que l'aliment contienne uniquement des nutriments, il contient en plus de poisons de quelque nature que ce soit, eh bien, à ce moment-là, nous allons parler d'intoxication alimentaire. C'est-à-dire ces poisons vont créer des dégâts dans l'organisme suite à la consommation d'un aliment contenant ce genre de poison. Et il y a divers types. Donc c'est à ce moment-là qu'on va parler d'intoxication alimentaire.
Donc alors, il s'agit de quand on mange quel type quels sont les types d'aliments qui peuvent conduire à une intoxication alimentaire?
Non, plutôt, je voudrais peut-être modifier votre question et dire ceci. Combien de types d'intoxication alimentaire peut-on avoir? Et nous arriverons alors à votre question.
D'accord, allez-y.
En fait, il y a d'abord un premier type, c'est que nous pouvons avoir des intoxications alimentaires lorsque on confond, disons, un aliment toxique à, une substance toxique à un aliment. Par exemple, les champignons. Vous savez que les champignons, il y a des champignons comestibles, il y a des champignons vénéneux.
Oui.
Si vous allez, vous ne connaissez pas très bien les champignons. Et vous allez prendre un champignon vénéneux, vous venez vous préparer, eh bien, vous allez avoir des problèmes sanitaires, ce sera une intoxication alimentaire.
Mm-hmm.
Ça, c'est un premier type. Un deuxième type, c'est des aliments, vous consommez un aliment contenant naturellement, c'est un aliment, mais ça contient naturellement des produits toxiques. Je donne l'exemple du manioc amer. Lorsque vous prenez le manioc amer, si vous ne faites pas le rouissage, c'est-à-dire on n'élimine pas les hétérosides cyanogénétiques qui sont là-dedans, eh bien, on va avoir des problèmes de goitre et d'autres. C'est aussi des conséquences d'une intoxication alimentaire. Troisième type. Nous avons la possibilité d'avoir une intoxication alimentaire si vous consommez un aliment qui contient des moisissures. Par exemple, vous consommez des arachides qui contiennent des moisissures et qui génèrent, par exemple, l'aflatoxine B1. Eh bien, vous allez avoir une intoxication alimentaire aussi. Mais aussi, lorsque vous avez un aliment qui est contaminé par des bactéries, donc c'est un aliment que vous avez mal conservé, vous laissez dehors. Cet aliment va être contaminé par des bactéries. Les bactéries vont générer des toxines. Ces toxines sont des vrais poisons. Au moment où vous allez manger cet aliment, vous allez attraper ce qu'on appelle toxi-infection alimentaire.
Mmh.
Et nous allons y revenir parce que au cours de ces fêtes, c'est en fait la principale intoxication alimentaire la plus en vue.
Alors, professeur, prenons par exemple le cas de... Nous savons qu'au Congo, il y a beaucoup d'aliments que nous consommons qui sont importés. Il y a certains aliments, à quelques jours de la date des péremptions, les commerçants font une solde et puis les gens achètent rapidement pour aller consommer. Et parfois, il y a des problèmes après. Alors, est-ce qu'on peut également parler d'intoxication dans ce cas-là?
Oui. Oui, absolument. C'est-à-dire, lorsque l'aliment arrive en fin de date de péremption, la péremption est dépassée, cet aliment commence à se décomposer, par exemple. Donc, il commence à produire des substances toxiques. Ça devient donc une intoxication alimentaire. Donc, chaque fois qu'il y a une substance dangereuse dans un aliment qui n'était pas prévu d'être là-dedans, une intoxication alimentaire. Et s'il vous plaît, je m'excuse pour terminer le dernier type, justement.
Oui.
C'est lorsque un aliment contient est contaminé par une substance chimique, de quelque nature que ce soit. Donc, par exemple, dans ces cas-là, une contamination, par exemple, par, prenons un pesticide ou un insecticide contamine un aliment. Mm-hmm. Lorsqu'il y a la fumée, quelque part, il y a les 3-4 benzopyrènes qui contaminent un aliment. N'importe quelle contamination d'un produit chimique dans un aliment, accidentellement, ça, c'est une intoxication alimentaire. Et si vous me permettez, avant de me poser une autre question, je voudrais préciser.
Oui.
Il faut faire la différence entre l'intoxication alimentaire et l'empoisonnement. Il y a empoisonnement lorsque on utilise l'aliment comme véhicule intentionnel pour tuer quelqu'un. On met un poison dans un aliment pour tuer quelqu'un ou faire du tort à quelqu'un. On n'appelle pas ça intoxication alimentaire. Ça devient empoisonnement.
Oui.
Voilà.
Bien. Merci pour cette précision, professeur. Des questions, des préoccupations, appelez-nous au 081-890-6394. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net. Nous avons déjà un auditeur en ligne, Freddy Kabamba. Il nous appelle depuis Lubumbashi. Freddy, bonjour.
Oui, bonjour, la France de la paix.
On vous écoute, Freddy.
Oui, ça va. Quelle sorte de maladie on peut attraper si on mange ces aliments? C'est ce que je voulais savoir. Merci beaucoup.
Oui, professeur Ndelo.
Oui. Alors, quels sont les genres de maladies qu'on peut attraper si on mange un aliment? Ça dépend quel type d'intoxication alimentaire.
Mm-hmm.
Prenons l'intoxication la plus courante pour le moment au cours des fêtes, c'est la toxi-infection alimentaire. C'est-à-dire, un aliment, vous conservez mal, eh bien, il y a des bactéries qui entrent dans l'aliment, qui, avant que vous ne puissiez le manger, et puis qui vont produire des toxines qui sont des vrais poisons. Et quels sont les problèmes que vous allez avoir? D'abord, après 8 heures, vous mangez l'aliment maintenant, 8 heures après, les symptômes commencent. Il va y avoir d'abord une diarrhée, parfois des vomissements. Vous allez avoir des maux de ventre très importants. Ça fait très mal au ventre. Vraiment, vous avez l'impression qu'on est en train de pincer quelque chose là au sein de dans votre ventre.
Mmh.
Vous êtes complètement fatigué. Vous avez un malaise généralisé dans tout l'organisme. Donc, vous avez l'impression et vous respirez même mal. Et si vous ne faites pas attention, vous allez penser qu'on vous a empoisonné. Ça arrive très souvent, beaucoup de gens pensent à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui a mis un poison dans sa nourriture, alors qu'en fait, c'est des microbes qui ont produit des toxines et ils souffrent d'une toxi-infection alimentaire. Voilà un peu, par exemple, l'exemple de symptômes qu'on peut ressentir.
Mmh.
Maintenant, si on prend une contamination, une intoxication alimentaire par des produits chimiques, tout dépend de la nature du produit chimique en cause. Selon le produit chimique en cause, nous allons avoir diverses manifestations. S'il s'agit par exemple de champignons, les champignons vénéneux il y a aussi là divers types de champignons, je ne vais pas les énumérer,
oui.
Mais nous pouvons avoir des champignons qui vont attaquer très fortement le foie. À ce moment-là, le foie va se détruire complètement. Nous pouvons avoir des champignons qui vont attaquer le sang, ainsi de suite, ou qui vont attaquer le cerveau, qui vont donner des hallucinations. Donc, tout dépend du type d'intoxication alimentaire à laquelle on a affaire.
Oui.
Voilà.
Alors, professeur, vous étiez en train de parler d'un type d'intoxication qu'on retrouve souvent pendant les fêtes. On va y revenir tout à l'heure. Le temps d'inviter les auditeurs à appeler pour participer au 081-890-63-94.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Bien, que faire en cas d'intoxication alimentaire? Noël Bamopaladi nous appelle depuis Guémena, dans la province de l'Équateur. Noël, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bon, j'ai une préoccupation à poser à monsieur l'invité.
Oui.
Donc, ça fait beaucoup d'années que j'ai le problème d'intoxication alimentaire, qui a commencé même d'affecter aussi ma santé. Et je suis allé voir le médecin. Le médecin me conseillera de ne plus consommer le fait de manioc, de ne plus prendre du thé, et de ne même pas aussi consommer des chikwang. Même suite à cela, il y a le problème de bourdonnement des vents et je me sens aussi mal à l'aise au niveau de mon cœur. C'est pourquoi je demande à notre invité de pouvoir un peu de m'orienter par rapport à cela.
Alors Noël, vous voulez dire que chaque fois que vous mangez les feuilles de manioc, la chikwang et autres, vous avez des problèmes au niveau du ventre?
Oui, oui, et surtout la nuit, Des problèmes au niveau du ventre, des bourdonnements, donc même au niveau du cœur.
Voilà, donc des bourdonnements et des problèmes au niveau du cœur. Merci à l'invité, va répondre tout à l'heure. Le temps d'accueillir Albert Mwananga, qui est à Kananga. Bonjour Albert.
Ah, bonjour monsieur le directeur.
Bon, vous écoutons.
Je vous souhaite une bonne
fête. Oui. Oui, allez-y.
J'aimerais revenir à propos des sujets.
Mmh.
Et je pose la question à l'invité, soit disant, celui qui est intoxiqué par tels aliments. Quel mécanisme il peut faire après qu'il puisse un peu aléatif ce phénomène? Et la deuxième préoccupation, celui qui mange les dormants, là, quelle sorte de préoccupation qu'il peut vraiment avoir?
Voilà, Albert, merci. Oui. Albert, la communication n'est pas très très bonne, mais j'ai quand même saisi vos deux questions. Vous avez dit d'abord les mécanismes pour anéantir les effets de l'intoxication alimentaire, et puis votre deuxième question, si on mange les bidorma, hein, voilà. Donc c'est qu'on appelle les repas d'hier, hein, qu'on appelle généralement bidorma, hein, par certains à Kinshasa. Est-ce que cela peut avoir des effets? Professeur Andelo.
Merci beaucoup. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, d'abord, je commence par la dernière question. Les bidormants. Effectivement. Eh bien, ils sont justement la cause principale de toxi-infection alimentaire, c'est-à-dire l'intoxication alimentaire la plus courante dans notre pays ou dans nos pays d'Afrique. C'est la toxi-infection alimentaire. Pourquoi? Parce que les bidormants là, eh bien, au moment, pendant toute la nuit, il y a des germes microbiens qui prennent possession de votre aliment, mmh, et qui vont donc croître là-dedans. Et pendant qu'ils sont là-dedans, ils vont générer des toxines. Je dis, les toxines, ce sont des poisons produits par des êtres vivants et les micro-organismes sont des êtres vivants.
Mmh. Alors, professeur, cela arrive généralement si le repas n'est pas bien conservé.
Bien sûr, puisque bidormant, si vous prenez le bidormant, vous mettez quelque part, même si vous mettez au frigo, les germes sont là-dedans, vous savez. Lorsque, au moment où vous allez manger, Il faut réchauffer très fort. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez vu, on prévoit les micro-ondes, le four à micro-ondes qui est capable de chauffer très très fortement pour être sûr de détruire absolument toutes ces choses-là. Sinon, vous allez être attaqué. Si au moins vous mettez au frigo, ça va encore, parce qu'à ce moment-là, peut-être il n'y a pas de croissance des micro-ondes. Il faut mettre au congélateur. C'est ça que les gens ne savent pas. Il faut mettre au congélateur et le lendemain, vous décongélez et vous pouvez réchauffer. Alors, ça c'est pour les billes dormants. Il faut vraiment faire très attention avec les billes dormants. Il faut les conserver au congélateur, je dis bien. Ça c'est une précaution indispensable. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on est en présence d'une toxi-infection alimentaire? D'abord, il faut être capable de reconnaître une toxi-infection alimentaire. C'est ça le problème. C'est que, par exemple, lorsque le soir, le samedi soir, vous allez à une fête et vous mangez, vous savez que pendant nos fêtes de mariage, on mange très tard. Et parfois, vous aimez manger la salade avec la mayonnaise. Parfois, ça a été préparé bien avant.
Oui.
Et le lendemain,
les buffets froids,
vous vous réveillez, vous avez une forte, une diarrhée, des douleurs de ventre. Vous devez savoir que c'est la toxi-infection alimentaire qui commence. Il faut courir pour aller chercher deux produits. Soit vous achetez la meyamicine, soit vous achetez le manadiar. Et vous prenez des doses fortes, c'est-à-dire deux comprimés le matin, deux à midi, deux le soir, eh bien, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, plus rien ne peut vous arriver.
Voilà. Et Noël de Guémena qui dit qu'il a un problème d'intoxication alimentaire. Le médecin lui a demandé de ne plus consommer les feuilles de manioc et la chikwang et autres aliments parce qu'il a souvent des bourdonnements et des problèmes au niveau du cœur.
Bon. Là, c'est un problème un peu plus complexe pour ces messieurs-là parce qu'il faudrait faire un peu une consultation pour savoir exactement quel est son problème. Parce qu'il faut faire d'abord attention, il y a une différence. De la même manière que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a une différence entre empoisonnement et intoxication alimentaire, je dois dire aussi qu'il y a une différence entre intoxication alimentaire et allergie alimentaire. Vous voyez ? Une allergie, c'est une intoxication, mais d'un type tout à fait spécial. Donc, il peut se faire qu'il soit allergique à certains toxiques, à certains aliments.
Oui.
Il faut voir à ce moment-là quel type d'aliment auquel il est vraiment sensible et pourquoi. Mais peut-être que ce n'est pas nécessairement... c'est peut-être qu'il a un problème dans son estomac qui fait qu'il n'accepte pas certains aliments.
Oui.
Ça, c'est aussi autre chose. C'est dommage qu'il soit si loin parce qu'il devrait peut-être venir pour qu'on fasse une consultation. Ça, c'est difficile à dire comme cela au téléphone. C'est un cas un peu complexe.
Bien, nous avons également Aline Jean Sengui de Kinshasa et Rachel Njunju qui nous appelle depuis Isiro, en province orientale. Jean Sengui, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste, c'est merveilleux.
Meilleur. Aussi. Merci Jean, on vous écoute.
Ok, j'ai d'abord une petite préoccupation par rapport à l'émission qui est vraiment très 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 capitale et je me quête que pourquoi ne pas organiser cette émission à une autre langue, par exemple, comme à Lingala. Parce que nos mamans, qui sont soit ici à Kinshasa, soit ailleurs, qui vous suivent, ne comprennent pas la langue de Molière. Et pourtant, ce sont celles qui s'occupent de la cuisine, et ils doivent quand même savoir de prendre certaines précautions pour que nous ne tombions pas dans ces intoxications alimentaires. Bon, maintenant je reviens à poser une petite question.
Oui.
Parce que jusque-là, l'invité, depuis que j'ai commencé à le suivre, il parle plus des aliments, mais je voulais savoir est-ce qu'il n'y a pas aussi des boissons qui peuvent causer l'intoxication. Et quels sont les moyens de prévention? Parce que je crois avoir suivi, parce que j'enseigne dans une école où il y a la nutrition, un des professeurs donnait une conférence. Il parlait notamment de boissons sucrées qui se vendent partout à Kinshasa, ici dans des bouteilles en plastique, et il a dit que c'est toxique. Alors, il y a une étude qui a été menée par une étudiante, je crois, qui a étudié aussi à l'INKIN, et qui a démontré cela, que ces boissons sucrées vendues dans des bouteilles en plastique sont toxiques. Alors, quelles seraient peut-être les mesures que notre spécialiste prenne par rapport à cela, et le gouvernement aussi y compris. Bon, et une autre préoccupation par rapport à moi-même, ça fait pratiquement deux semaines.
Oui.
Et je mange normalement, mais la nuit, j'ai souvent un peu de malaise au niveau du ventre. Bon, ça ne fait pas tellement mal, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que, dans ce cas, on peut parler aussi des intoxications alimentaires?
Bien, merci Jean Sengui. Rachel Ndjundjou, vous êtes à Isiro. Bonjour.
Bonjour, José. Merci à l'invité.
Merci Rachel, on vous écoute.
Oui, j'ai des questions à poser à l'invité. Premièrement, je veux savoir si comment quelqu'un saurait que l'un est intoxiqué ou empoisonné. Et deuxièmement, quel type de traitement on peut prendre quand on est intoxiqué?
Merci. Professeur Ndelo.
Ok, merci beaucoup. Je prends d'abord le problème de ceci. Merci évidemment pour la question de notre auditeur. C'est sûr que le groupe constitue aussi, c'est aussi des éléments en fait, des boissons. Ça constitue aussi une source de problèmes. Mais attention, il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que le boisson sucrée. Non, 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 on va y revenir. Mais attention, d'abord, j'ai déjà vu partout des gens qui disent, moi je préfère boire de l'alcool plutôt que prendre le boisson sucrée. Non, 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 c'est la même chose. Il y a des dangers dans l'un ou dans l'autre. Quel est le danger de boisson alcoolisée? C'est l'alcool. L'alcool est un danger réel. Et peut-être qu'il faudra voir un jour une autre émission, rien que pour qu'on parle de l'alcool, mon frère, parce que c'est très important. Donc, mettons ça de côté. Mm-hmm. Prenons le boisson sucré. Le boisson sucré, oui, comme d'ailleurs les boissons alcoolisées, contiennent de ce qu'on appelle les additifs alimentaires. C'est-à-dire, ce sont des produits chimiques qu'on ajoute intentionnellement à la boisson, comme d'ailleurs aux aliments qui sont fabriqués ailleurs, pour que ces aliments ou ces boissons puissent être, par exemple, colorés. On met des colorants,
oui,
puissent être sucrés, on met du sucre, ou bien parfois on met d'autres produits. Eh bien, ces produits peuvent parfois être dangereux. De la même manière que ces additifs, on trouve aussi dans la bière aussi, des additifs aussi, par exemple, l'acide benzoïque, ainsi de suite. Donc, les boissons aussi peuvent présenter des problèmes. Je répète, le problème de l'alcool, vous nous le connaissons, vous voyez vous-même, c'est que l'alcool fait comme dégâts dans notre pays ou dans nos pays, dans le monde. Deuxièmement, les produits sucrés peuvent avoir des additifs qui peuvent ne pas être, ce qu'il faut. Quelles sont les précautions? Mais ça, c'est un problème du gouvernement.
Alors professeur, oui, vous avez suivi, il a parlé, il a cité un cas, une étudiante qui a mené une étude, et puis cette étude a révélé que les boissons sucrées vendues en bouteilles plastiques peuvent avoir des problèmes, peuvent causer des problèmes aux consommateurs,
okay,
à cause de l'emballage, du type d'emballage.
Oui, 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 oui. Il y a le problème de l'emballage qui est aussi un problème qui est à la base des intoxications alimentaires. Le problème d'emballage en général. Le problème d'emballage, le plastique, qu'est-ce qui arrive avec le plastique? Lorsque vous avez, par exemple, une boisson qui est acide, eh bien, cette boisson acide peut extraire de la bouteille en plastique des produits, donc les monomères qui ont servi à fabriquer la bouteille. Et ces monomères peuvent passer dans la boisson. Et ce sont des monomères qui sont généralement cancérigènes. Mais c'est la même chose avec l'emballage lorsque nous prenons les marmites. Les marmites qu'on utilise, qu'on fabrique artisanalement, ces marmites sont généralement fabriquées à partir de anciens matériaux, de moteurs, ainsi de suite, et on retrouve les métaux lourds là-dedans, beaucoup de plomb, et ces métaux lourds et ces plombs peuvent passer dans l'aliment aussi, lorsqu'il est acide, et contaminer l'aliment. Nous allons avoir une intoxication alimentaire aussi.
Mmh.
Voilà.
Bien, avant de répondre à Rachel Ndjundjou qui veut savoir comment savoir lorsqu'on est intoxiqué ou on est empoisonné, Aloïs Sakaji est en ligne depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité Ménère, à toute l'équipe de la radio Kati.
Merci Aloïs, votre question.
Merci, monsieur Jody. J'avais lu dans une revue où il était mentionné que le miel est un aliment le plus médicamenté du monde. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que l'invité peut corroborer cette hypothèse? Et si cela est vrai, en cas d'une intoxication alimentaire ou d'un empoisonnement, quelle quantité la victime peut utiliser et cela peut intervenir à quel moment? Merci.
Bien, merci Aloïs. John Lukika, vous êtes à Kindu, bonjour.
Eh oui, merci, meilleur vœu au professeur, meilleur vœu à vous tous.
Merci.
Alors, mon intervention consiste sur la viande boucanée et les poissons fumés.
Uh-huh.
À partir de la fumée qui s'échappe de bois, vous savez, la fumée contient le benzène. Et le benzène, sous l'action du feu, n'est-ce pas, les doubles liaisons se déplacent et nous avons une substance qui s'appelle le pyrobenzène. Et cette substance est extrêmement cancérigène. Il n'y a pas un produit chimique qui pourra nous aider à rompre ces doubles liaisons de la substance cancérigène, le pyrobenzène. Et que c'est seulement l'huile de palme qui contient la vitamine A qui est capable de sauver la situation. Je voudrais que le professeur me parle un peu autour de cette assertion. Est-ce vrai? Est-ce faux? Merci, c'est John Lukika qui vous a appelé de Kindu.
Merci, John Lukika. Professeur Ndelo.
Ok, je voudrais d'abord commencer par la première question de la dame. Comment reconnaître une intoxication alimentaire et qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que j'ai dit tout à l'heure. Mm-hmm. L'intoxication alimentaire la plus courante, c'est la toxi-infection alimentaire. J'ai donné tout à l'heure les symptômes, c'est-à-dire 8 heures après avoir consommé un repas, vous avez des douleurs abdominales très très intenses, vous avez de malaise généralisé, de la transpiration, vous avez parfois des vomissements, ainsi de suite. Alors il faut prendre la meyamicine ou le manatar. Ce sont deux produits qui ont été fabriqués par des Congolais, des pharmaciens congolais, et qui sont formidables. Je dis bien formidables. Alors, maintenant, la dame, je répète, confond empoisonnement et intoxication alimentaire. Je répète, il ne faut pas confondre les deux. Maintenant, quels sont les symptômes d'un empoisonnement comme d'une intoxication alimentaire autre que toxi-infection alimentaire? Eh bien, mes chers amis, tout dépend de la nature. Malheureusement, tout dépend de la nature du toxi qui se trouve ou devant lequel on se trouve. Il est difficile de savoir quel est le symptôme parce que chaque toxique ou chaque poison a ses symptômes tout à fait spécifiques. Mais généralement, lorsque l'on consomme quelque chose qui n'est pas bon, généralement on commence par avoir de la diarrhée, des maux de ventre, des vomissements, des nausées. Ça, c'est la première chose. Mais il y a des poisons qui ne font pas cela du tout. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a des malaises que ça ne va pas, on va à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital et que à l'hôpital, on essaie de faire tous les tests qu'on voit que c'est négatif, généralement, dans le pays où quand on a un toxicologue à côté et qu'il y a un laboratoire, oui, alors le médecin va demander aussi d'aller voir ou de faire un test toxicologique, on ne sait jamais. Voilà comment les choses doivent se faire.
Alors, professeur, par rapport à la question d'Aloïs de Kananga, il dit que le miel est un aliment qui a plusieurs vertus. Alors, oui, en cas d'intoxication alimentaire, quelle quantité de miel prendre?
Alors, le miel, c'est un produit merveilleux, effectivement. C'est un antitoxique, dans ce sens qu'il combat les radicaux libres de l'organisme. Mais, excusez-moi de vous dire que lorsqu'il y a un problème très important avec une grande quantité de toxiques au même moment, le miel n'est pas opérant. Je l'ai dit, je répète, lorsque vous avez un produit, un problème avec une toxi-infection alimentaire, qu'il me fasse confiance, il faut prendre le manadiar ou la meyamicine. Ça, c'est un. Et croyez-moi, je le dis, je fais des consultations psychologiques, donc je parle avec expérience à l'appui plus de la science, du peu de science que Dieu m'a permis d'acquérir. Mmh. Alors, ensuite, lorsqu'il s'agit d'un autre toxique, voici ce qu'il faut faire. Il y a un produit qu'on appelle le charbon activé. Le charbon activé ou charbon médicinal, c'est un charbon spécial qui sert, qu'on utilise comme antidote universel en attendant qu'on puisse aller à l'hôpital. Le miel, il faut le prendre chaque jour. Vous prenez une petite cuillerée à café de miel chaque soir. Eh bien, ça va vous protéger contre les radicaux libres, c'est-à-dire notre organisme, les aliments que nous mangeons, parce que ça, c'est encore un autre problème. Le domaine est tellement vaste. Donc, les aliments que nous mangeons, même quand ils sont bons, ils vont générer, ils vont fabriquer dans l'organisme des radicaux libres. L'oxygène que nous respirons va dans l'organisme, forme aussi des radicaux libres. Et nous avons des produits naturels dans l'organisme pour combattre ces radicaux libres, mais nous pouvons ajouter des antioxydants puissants, comme le miel. Et c'est comme ça que le miel peut nous aider régulièrement. Mais lorsqu'il y a un poison violent qui arrive en une fois, le miel peut devenir inopérant.
Bien, professeur, on va terminer avec la question de John Lukika de Kindu qui dit que lorsqu'on sèche la viande boucanée, le poisson, il y a le benzène et puis pyrobenzène, il n'y a que l'huile de palme qui contient la vitamine A qui peut résoudre le problème.
Ok, voilà. Je vous ai dit, j'avais parlé du 3-4 benzopyrène, justement. Les 3-4 benzopyrène, c'est comme il a dit, en toute fumée, la fumée c'est quoi? C'est une combustion incomplète. Quand il y a une combustion incomplète, elle se manifeste par la fumée. Et la fumée contient, justement, des hydrocarbures polycycliques aromatiques, en tête, le 3-4 benzopyrène. Quand le 3-4 benzopyrène est formé, eh bien, il est formé. C'est un initiateur de cancer et vous ne pouvez rien faire d'autre que le subir. Il faut avoir des antioxydants là aussi qui peuvent permettre de pouvoir lutter contre. Il parle de l'huile de palme.
L'huile de palme, oui.
Il parle de l'huile de palme. Oui, dans une certaine mesure. Mais il faut faire très très attention parce que si l'huile de palme était si merveilleuse que cela, laissez-moi vous dire qu'il y a de plus en plus de cancers toxiques qui se développent dans nos pays et cela arrive parce que justement, suite à la présence ou à la consommation de beaucoup d'aliments fumés, plus à la consommation de arachides avec de l'aflatoxine. Donc, il faut faire très attention. Ce que nous devrions faire, c'est que nous devrions prendre plutôt l'habitude, par exemple, lorsque vous préparez.
Oui.
Donc, il faut la prévention. Lorsque vous allez préparer, en principe, il faut enlever la peau. Parce que, généralement, les 3-4 benzopyrène se condensent sur la peau, par exemple, si vous avez un poisson. Je sais, malheureusement, il y a des gens qui n'aiment que la peau, hélas. Donc, normalement, on doit enlever la peau ou la gratter très fortement pour enlever la couche supérieure. C'est cette couche supérieure sur laquelle se concentrent les 3-4 benzopyrène. De même, lorsque on a conservé une viande par la fumée, c'est la même chose.
Donc, professeur, on retient que pour celui qui veut préparer à manger la viande fumée, il faut prendre le soin d'enlever la peau, toute la peau.
Voilà.
Parce que c'est elle qui emmagasine le produit toxique.
C'est ça.
Bien. Alors, pour terminer, professeur, on va répondre rapidement à la question de Jean Sengui qui a des problèmes de malaise, de bourdonnement au niveau du ventre après avoir mangé parfois des pets ou des renvois. Alors, à ce moment-là, peut-on parler d'une intoxication ou d'une allergie tout simplement?
Là aussi, c'est question de faire une consultation parce qu'on ne peut pas savoir, il peut se faire qu'il ait un problème. Un problème dans son organisme et dans son ventre ou dans le tube digestif, quoi. Il peut se faire qu'il y ait un problème dans le tube digestif qui fait que lorsqu'il mange, il y a production de gaz, il y a une fermentation qui s'est fait dans son ventre, alors il y a de gaz qui sont produits, et ce sont ces gaz qui a régurgitation. Donc, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de régurgitation qui va avoir lieu à cause de ces gaz qui se forment dans son organisme, dans son ventre, dans son tube digestif. Il faut aller à l'hôpital. Il faut se faire consulter par un spécialiste de maladies gastro-intestinales. Et si ça ne va pas, s'il est par ici, eh ben, il nous verra un jour.
Alors, professeur, il peut vous joindre à quel numéro, peut-être si...
Mon numéro, c'est le 081
oui.
026
oui.
57 00. Et je suis au campus de Kinshasa.
Bien, professeur.
À la partie des pharmacies.
Des pharmacies. Professeur Ndelodi Pandou, toxicologue. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.